Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je sais pas si comme moi vous avez cette sensation étrange que pas une année, pas un mois ne se passe sans que sorte un film, un livre, un documentaire explorant pour la millième fois la Seconde Guerre mondiale et tout particulièrement le nazisme. Alors moi j'ai fait des études d'histoire, j'ai travaillé très précisément sur ces sujets donc ça m'intéresse, mais je peux pas m'empêcher de m'interroger à force de les voir en permanence ou presque nous revenir. D'ailleurs il n'y a pas que dans le domaine artistique ou dans la recherche qu'ils s'invitent, dans l'actu également. Régulièrement dans la presse on peut lire des articles révélant des pans jusqu'ici ignorés de cette histoire qu'on a pourtant l'impression de connaître par cœur. Par exemple, il y a quelques temps, on apprenait le passé nazi terrifiant du médecin autrichien Hans Asperger, l'une des figures de la pédopsychiatrie dont le nom est associé à un célèbre syndrome autistique. Et des cas comme celui-là, il y en a eu beaucoup et il y en aura sans doute encore. Bref, nous n'en avons pas fini avec le Troisième Reich. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on en revient en permanence à cette époque ? Qu'est-ce qui explique que malgré la sensation d'avoir tout vu, tout lu, tout entendu sur cette période, on y découvre encore de nouveaux détails ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité du jour est bien placé pour savoir que le sujet est sensible. Christian Ingrao est historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du nazisme. Il a signé de nombreux livres, dont récemment une biographie d'Adolf Hitler. C'est paru aux presses universitaires de France. Il l'a coécrite avec Johan Chapoutot et ça leur a valu à tous les deux une petite polémique dans le milieu de la recherche, certains les accusant d'avoir manqué de rigueur dans leur rédaction. Et on y reviendra pendant l'épisode. Mais avant toute chose, et pour démarrer notre discussion, je lui ai demandé pourquoi, selon lui, on continuait d'aborder le nazisme comme une période de découverte.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent ici. Il y a un premier facteur, c'est le fait que l'innovation en histoire se passe par vagues et que on est en train de on a une première vague qui a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale, puis une deuxième vague qui a eu lieu dans les années 60, une troisième vague qui nous a submergés à partir des années 90 avec la chute du mur et la découverte d'un certain nombre d'archives. Et puis que maintenant, il y a une quatrième vague qui, me semble-t-il, est en train de s'annoncer avec l'attention à des sujets sur lesquels on n'aurait pas jusqu'ici eu le réflexe de se concentrer.
C'est-à-dire, par exemple, ces sujets
L'histoire du genre. Quelle est l'expérience que le nazisme apporte aux femmes, que ce soit des femmes militantes ou des femmes victimes. Par exemple, la question de la participation populaire des populations au national-socialisme. Le fait que le nazisme n'est pas seulement un système répressif, mais aussi un système qui avait un projet politique de créer une nouvelle société, une société de la bienveillance et de la frugalité. Et tout cela, on est en train de le comprendre depuis 5, 6, 10 ans peut-être, et il y a encore beaucoup à faire.
C'est quoi, c'est nos outils d'analyse, notre grille de lecture qui évolue de cette période ?
Ce qui évolue, c'est que les historiens ne sont jamais des êtres complètement abstraits et qu'ils construisent leurs interrogations par rapport à ces contextes dans lesquels ils vivent. Alors les premiers, ceux du début des années, de la fin des années 50, le construisaient dans le contexte de la découverte des crimes et des procès de Nuremberg, et donc ils étaient très dans la question de l'intentionnalité, mais aussi les Allemands, eux, étaient très dans un raisonnement qui était un raisonnement civique. Hein, comment est-ce que notre pays, qui est le pays de Goethe, de Schiller, de Beethoven, a pu finir par tuer des nourrissons devant des fosses ou dans des chambres à gaz ? Comment cette catastrophe civilisationnelle a pu avoir lieu ? Puis après, on a eu la vague de leurs enfants, qui étaient des gens qui se posaient quand même des questions sur « Mais qu'est-ce que t'as fait, papa, pendant la guerre ?» et qui contestaient l'état social et libéral allemand au sein du mouvement étudiant et qui ont construit un autre modèle qu'on appelle « fonctionnalistes. Et puis enfin, à partir des années 90, les historiens, sous le coup à la fois de l'ouverture des archives des pays de l'Est et en même temps de cette expérience absolument traumatique qui est la guerre de Yougoslavie, qui correspond, si vous voulez, au retour de la violence de guerre dans les horizons d'attente des Européens, ont construit une dernière interrogation sur la question de l'attitude des acteurs sociaux face à la violence. Alors, ça, ces trois vagues, vous voyez, elles se sont vraiment construites parce qu'il y a une porosité entre l'interrogation historienne et l'expérience que les historiens font de leur dans leur propre société. Et donc, à l'heure actuelle, eh bien, on en est là. La question des questions qui sont assez brûlantes chez nous, la question du droit des minorités, la question des modes de participation des citoyens à la société, la question du militantisme, ce sont des questions qui sont très brûlantes et qui je dirais, irriguent l'interrogation historienne depuis au moins une dizaine, quinzaine d'années.
Est-ce qu'on sait tout de cette période ?
On ne sait jamais tout d'une période, jamais. D'abord parce que la seule personne qui pourrait savoir tout, c'est Dieu, parce qu'il faudrait avoir conscience de l'ensemble des expériences que tous les êtres d'une période produisent. Donc, vous voyez, c'est parfaitement illusoire. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours des interrogations qui naissent parce qu'il y a des pas de côté qu'on n'arrive pas à voir, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à assembler ensemble, des objets qu'on n'imagine pas. Par exemple, moi, je pense qu'en ce moment, il y a une très grosse enquête à faire sur le nazisme et sur la question du travail qui traverse au fond toute la répartition sociale du national-socialisme et de la société allemande, mais pas seulement. À partir de 1941, c'est toute l'Europe qui est concernée par la façon dont les nazis agencent les sociétés par rapport à la question du travail. Et ça, c'est fondamental. Pour l'instant, on a des travaux éparses, mais on n'a pas une vraie enquête.
Les membres du nouveau ministère, à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné, se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof. Monsieur von Papen, désigné comme vice-chancelier et commissaire du Reich en Prusse. Voici Monsieur Göring, président du Reichstag, chargé du ressort de l'aviation et des travaux du ministère de l'Intérieur prussien.
Est-ce que ça vous étonne qu'on découvre encore des choses ? Je pense notamment à un cas assez récent qui est le cas d'Asperger, dont on a découvert très tardivement finalement l'implication dans le système nazi autrichien pour le coup. Ça vous étonne que 60, 70 ans, 80 ans après, on découvre des faits qui paraissent publics à l'époque.
Mais qu'ils sont, à mon avis. C'est-à-dire que le seul problème, c'est pas qu'on les découvre, enfin, c'est que nous les découvrons, mais ces faits, ils sont là, ils sont devant nous. N'importe quel psychiatre allemand qui travaille entre 1933 et 1945, il est évident qu'il a, à un moment ou à un autre, au moins eu conscience de ce qu'était cette action d'euthanasie des malades mentaux qui s'appelle l'action Tiergartenstrasse 4. Donc au moins il a été au courant, et s'il est resté en poste, ça veut dire qu'il avait il avait rien contre, et au mieux il y a participé. Donc moi ça m'étonne pas du tout qu'on le fasse. C'est simplement que assez souvent quand même, il y a des conséquences qu'on n'a pas envie de tirer parce que c'est déjà tellement dur on n'a pas envie d'aller voir plus, et il faut que le réel nous prenne par le nez pour qu'on aille voir. Non, Asperger, il était évident que ça tomberait un jour ou l'autre.
Est-ce que c'est parce que toute cette période a teinté toute l'expérience de la fin du XXe siècle, qu'il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a laissé de côté? Je pense notamment, on reste sur le cas d'Asperger, toutes les découvertes autour de l'autisme partent en grande partie de ses travaux. Enfin, alors il y a débat sur le fait qu'il se soit accaparé ou pas plus une partie des travaux, mais bref, son nom est associé à tout un tas de découvertes scientifiques. Est-ce que justement, comme beaucoup de choses se sont passées durant cette période et qui sont liées au nazisme, ont teinté la suite de notre expérience, on n'a pas voulu les voir.
Ou on n'a pas su, je ne saurais pas s'il y a une intentionnalité dans le refus de voir.
Peut-être qu'elle est inconsciente.
C'est ça, je pense qu'elle est assez inconsciente. Et puis vous voyez, il y a des choses sur lesquelles il faudrait qu'on continue à travailler. Asperger, c'est quand même un petit scientifique par rapport à quelqu'un comme Werner Heisenberg, qui est un des grands génies de la physique quantique et qui est resté en Allemagne tout le temps. Et un grand génie de la physique quantique, mais s'il avait pu donner la bombe atomique à Hitler, il l'aurait fait. Et ça, on le sait pas beaucoup, on le dit pas beaucoup. Voyez, et je pense qu'il y a énormément de gens comme ça sur lesquels on pourrait se poser des questions. Konrad Lorenz, vous savez le bonhomme de l'éthologie animale, là, celui qui travaillait sur la violence chez les oies, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a travaillé dans des conditions assez agréables sous le nazisme, mais qui s'est pas posé tellement de questions. Donc oui, tout ça, on a souvent, ça nous embête d'aller voir. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la rumination dans tout ça. Ce qu'il faut voir, à mon sens, et ce qui explique en grande partie, à mon avis, l'espèce de conjonction, de compulsion plutôt, de répétition qui explique, c'est que tout cela est profondément narcissique. Pour la première fois en Europe, il y a eu la tentative d'extermination exhaustive d'un ensemble et d'une communauté, la communauté, la judaïté européenne. Et ça s'appelle, chez Freud, ça s'appelle, même si les gens n'aiment plus beaucoup Freud à l'heure actuelle, ça s'appelle une blessure narcissique. C'est-à-dire que nous, Européens, nous nous sommes vus morts, morts collectivement. Et c'est cette blessure narcissique et ce trauma-là qui se répète de façon cyclique et auquel nous assistons. Et l'injonction du devoir de mémoire, ça n'est tout simplement que l'injonction au retour et à la rumination du trauma initial.
C'est ce qui explique, selon vous, qu'on y revient sans cesse, cette catastrophe civilisationnelle que vous évoquiez
oui,
tout à l'heure.
Pour moi, c'est exactement ça qui explique qu'on y revienne. Et puis, il y a quelque chose qui fait qu'il me semble qu'on va y revenir de plus en plus, encore de plus en plus fréquemment ou intensément. C'est le fait que les grands systèmes civilisationnels qui ont été proposés après la guerre, par l'ensemble des alliés, c'est-à-dire la société de consommation ouest européenne et, on va dire, la société socialiste du pacte de Varsovie, sont des sociétés qui sont entrées en crise dans les années 80. Et depuis, nous cherchons un nouveau modèle politique. Tant que nous n'aurons pas trouvé un modèle politique sera un modèle politique unifié d'un côté et qui proposera un avenir à l'ensemble des populations, qui sera intégratif, nous n'aurons aucune raison de passer par-dessus ce trauma.
J'ai eu à l'époque, j'ai été contacté par des gens de véritables résistants. C'était la période où on cherchait des gens qui en voulaient. C'est vrai, je n'ai aucune excuse. On m'a proposé plusieurs fois d'entrer dans la résistance, et dans la résistance active. Mon idée à l'époque, mon idée de jeune, c'est qu'il n'y avait que deux idéologies qui pouvaient bouleverser le monde, une qui avait déjà bouleversé le monde, qui était le marxisme, et une autre qui était l'idéologie nationaliste.
On a l'impression qu'on est pris des fois dans une espèce de contradiction entre, vous parliez du devoir de mémoire, entre une forme d'alerte qu'on entend régulièrement dans les médias en disant attention, cette époque s'éloigne, celui qui n'est pas au courant de son passé est voué à le revivre, ce genre de choses qu'on lit et qu'on entend assez fréquemment, et en même temps, la sensation que cette époque, elle est justement partout.
Et oui, c'est très exactement le signe de ce que du fait qu'on est encore face à une expérience, enfin un vécu traumatique de cette période-là, c'est-à-dire que l'expérience des années 30 et des années 40 est encore partout. On a l'impression d'en revivre des bouts. Je vous conseille de lire le très beau livre de Michael Fossel qui s'appelle 1938 Récidive, hein, qui est un très très beau livre et qui montre bien comment on peut malgré tout quand même mettre en place une démarche rationnelle, philosophique de mise en lumière et de mise en relation, d'articulation entre les deux périodes. Et dans le même temps, on nous dit à la fois que n'oublie jamais et que attention, ça va revenir. Et donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la confusion et du manque de structure, hein, de notre rapport au passé. On est dans des sociétés qui sont hyper amnésiques et qui dans le même temps par l'incantation réduisent à néant la question du devoir de mémoire. On nous a jamais dit autant never again. Depuis les années 90, on nous dit il faut plus jamais que ça se reproduise, et puis on a laissé faire le Rwanda, on a laissé faire la Yougoslavie, on laisse les migrants se noyer en Méditerranée avec une crise migratoire qui est très parallèle à celle de 38 où on a abandonné, où les Occidentaux ont abandonné les Juifs allemands et autrichiens, etc. etc. On, à la base, on nous dit never again, c'est toujours again. Donc voilà, c'est cet ensemble de paradoxes qui explique que c'est un signe qu'on n'a pas terminé avec cette période.
Si on parle de la recherche historique de manière plus générale, est-ce que c'est compliqué de travailler sur cette période ?
Moi, je trouve pas que ce soit compliqué de travailler sur cette période. C'est un travail très intense. C'est sans doute un travail qui a un coût psychique certain pour la plupart des historiens qui travaillent sur le nazisme. On ne travaille pas ni sur la violence, ni sur l'angoisse, ni sur l'effroi, sans des dispositions, je dirais, psychologiques spécifiques et sans un coût psychique spécifique. Il n'en reste pas moins que je connais assez peu de champs historiographiques aussi intenses et aussi intéressants et qu'on est tous prêts à payer ces prix-là.
Cette intensité, elle se mesure aussi dans les sources de tension qu'il peut y avoir autour de certaines recherches. On voit souvent des débats historiques ou en tout cas des polémiques, des accrochages. Vous-même, vous en avez subi une au mois de septembre autour du livre sur Hitler. Ça reste, c'est encore une nouvelle fois une preuve de, on va dire, la grande actualité quelque part de cette période.
C'est le signe surtout que... les historiens qui opèrent ces recherches et leurs observateurs mettent une valeur extrêmement intense et une passion extrêmement intense dans tout cela, et que la plupart du temps les clivages qui s'opèrent dans ces querelles, hein, dans ces polémiques, sont des clivages qui dépassent de très très loin le clivage historiographique, et ce sont des clivages qui se superposent avec des clivages épistémologiques, philosophiques et parfois politiques, hein. Les grandes querelles des grandes querelles allemandes des années 70-80 superposent un clivage gauche-droite, mais aussi un clivage histoire sociale, Geistesgeschichte, c'est-à-dire vieille histoire des idées, etc. etc. Donc c'est parce que les clivages se superposent qu'ils sont très très profonds et que ça donne des querelles avec une grande intensité.
Vers quel territoire vous imaginez la recherche sur cette période aller dans les années à venir ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, je pense que l'intérêt des historiens à l'heure actuelle, c'est de se mettre à essayer de systématiser les interrogations anthropologiques autour du nazisme, de se mettre à travailler, à mettre en place des enquêtes systématiques, par exemple, sur le corps, sur le travail. Il y a de très très beaux travaux qui ont été fait par les anthropologues depuis quelques années sur l'interaction homme-animal. Eh bien, allez, prenons ces travaux et allons nous amuser. C'est ma prochaine enquête, c'est pour ça que je vous en parle comme ça. Amusons-nous à voir comment les nazis tracent la frontière entre humanité, inhumanité, sous-humanité, bestialité, etc. C'est menons une enquête spécifique là-dessus. Allons voir comment, par exemple, ils ont tout fait pour protéger des bisons. Et que pour protéger des bisons, dans certains endroits, ils exterminent les juifs pour que les bisons puissent être plus tranquilles. Vous voyez, des choses comme ça. À mon avis, on a des trucs épars. C'est un peu comme ce que je vous disais sur le travail tout à l'heure, mais on n'a pas une enquête systématique. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, sur le travail, sur les rapports de genre, sur les rapports hommes-animaux, etc. Là, je pense qu'il y a de gros chantiers à mettre en place.
Je parlais de contradictions tout à l'heure. Il y en a une autre qui me vient pendant qu'on discute, c'est que on n'a certainement jamais eu accès à autant d'informations, à une production, on va dire, historique aussi vaste, et historienne aussi vaste. Les rayonnages de librairies, les rayons Seconde Guerre mondiale et histoire du nazisme sont gigantesques.
Oui, on a un métier difficile.
Voilà, c'est très concurrentiel comme secteur. Et à la fois, régulièrement, des études viennent nous montrer que le grand public connaît finalement assez mal cette période, ou en tout cas on a une vision assez partielle, ou a encore beaucoup de préjugés, de fausses idées sur cette période. Il y a aussi là une contradiction quelque part.
Ou une contradiction, ou alors c'est une suite logique. C'est-à-dire, ben voilà, le public croule sous l'information de deux façons. D'abord, elle croule sous l'information scolaire. Je vous rappelle qu'on fait le programme dont on travaille sur le nazisme en troisième et en première / terminale, ça dépend des années selon nos gouvernants, mais on travaille deux fois sur le nazisme. En second lieu, il y a une production populaire qui a toujours été assez forte, assez tranche, mais qui a toujours été de qualité assez médiocre. Et enfin, désormais...
La production populaire, qu'est-ce que...
Bah, vous voulez, les livres qu'on sort sur le nazisme dans les années 70 sont la plupart des temps des livres qui sont écrits par des... Soit qui sont des livres qui sont écrits par des historiens français qui ne sont pas germanophones et qui donc ne peuvent pas aller voir les archives et qui se servent de bric et de broc et bon, c'est pas génial. Soit sont des livres qui sont traduits de façon très très tardive, de l'allemand ou de l'anglais en français. Donc on a une information qui est très datée. Et c'est encore dans une certaine mesure vrai à l'heure actuelle. Et puis vous avez une production d'historiens professionnels, on est une dizaine maintenant, douzaine en France, plus les traductions qui sont devenues beaucoup plus aiguës. Et donc tout ça fait, si vous voulez, que vous croulez sous les informations. Et puis que on a beau dire, mais les gens lisent de moins en moins. Ça, tous les éditeurs vous le disent. Et donc l'information, elle vient d'ailleurs. Elle vient aussi de nouveaux médias. Il faut que les historiens professionnels investissent de nouveaux médias, mettent en place des comptes YouTube, des MOOC, etc. S'ils veulent se faire entendre et si on veut relever le niveau. Et c'est pas en publiant des gros livres à 800 pages comme je le fais qu'on va arriver à éduquer les gens, quoi. Ils ont autre chose à faire, quoi.
Vous ouvrez bientôt votre chaîne YouTube, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Oui, j'en parle à mes fils, là, en ce moment.
Bon, blague à part, moi je m'y abonnerais bien à cette chaîne YouTube. Merci Christian Ingrao pour cette discussion. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.